I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips.
Si le 10-year challenge où l'on pose deux photos qui ont 10 ans d'écart nous a permis de voir un truc, c'est bien que les Noirs ont la même tête entre 25 et 60 ans. Parce que Black Don't Crack.
Black Don't Crack. Black
Don't Crack. On est en 2019 et vous écoutez le Chip. Je suis Mélanie Wanga et je suis entourée pour changer de mes compères François Oulac.
Oui, c'est bien moi.
Et Kevin Donna.
Je suis azelé.
Alors, au menu de cette semaine dans le Chip, on ouvre un gros dossier, celui de R. Kelly, revenu sur le devant de la scène grâce au documentaire Surviving R. Kelly, qui regroupe les témoignages de plusieurs jeunes femmes sur les abus sexuels que le chanteur américain de R&B aurait commis quand elles étaient mineures. Et on se demande si, en 2019, on peut encore écouter R. Kelly. Vaste débat. D'ailleurs, petit avertissement, parce que dans cette partie de l'émission, on va évoquer des viols, des agressions sexuelles, de la pédophilie, donc soyez prévenus et prenez vos précautions si ces sujets sont pesants ou trop lourds. Take care. Et puis, dans un registre quand même un peu plus léger, François va nous faire un résumé de l'événement sportif de l'année, que dis-je, du siècle, le combat dans un octogone sans règles entre les rappeurs français Kaaris et Booba, qui aura peut-être lieu si tout va bien.
Ouais, c'est ça. Bah, y a Mohamed Ali contre Joe Frazier. Il y a Kirby
contre Pikachu.
Il y a Mayweather contre Tenshin Nakamura. Et puis Abouba contre Kaaris. On peut le dire comme ça.
Mais d'abord, notre rubrique préférée, j'ai nommé le Trashico.
Alors moi, j'ai suivi le procès de Nick Conrad qui a eu lieu la semaine dernière et j'étais vraiment triggered, j'étais vraiment...
Déclenché.
Merci, Kevin. Nick Conrad, c'est le rappeur qui avait fait polémique avec le morceau « Pendez les Blancs » en septembre dernier, vous vous souvenez ?
Je rentre dans des crèches, j'ai des bébés blancs, attraper les vites et pendez leurs parents. Écarte-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez les forts, faites-le franchement. Mais ça pue la mort, que ça puisse le sang pendu aux arbres.
Moi je date toujours dessus. Donc Nick Conrad jugé donc la semaine dernière pour provocation à commettre des atteintes à la vie. Lors de son procès dans les parties civiles, il y avait la LICRA qu'on ne présente plus, ainsi que l'AGRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Retombée de la... Donc c'était intéressant quand même comme audience parce que, bon déjà, on a pu un peu évaluer les retombées de la polémique sur la vie, le quotidien de Nick Conrad. On sait qu'il a perdu son job dans un hôtel de luxe depuis le début de la polémique. On a appris quelques éléments biographiques également sur sa vie. Par exemple, on connaît un peu sa formation, on sait qu'il a travaillé dans l'hôtellerie, on sait qu'il a été victime de racisme dans sa boîte d'intérim et notamment aussi dans le monde de l'hôtellerie. Donc bref, c'était un peu, je trouve que c'était une bonne occasion de laisser Nick Conrad donner un peu plus sa version des faits et puis de l'humaniser un peu plus parce que finalement on l'avait entendu que dans des tribunes, notamment sur le Parisien. Et là, il a vraiment eu le temps de se défendre de manière construite.
Ouais,
donc je trouvais ça.
C'était pas juste 2 minutes, quoi.
Ouais, c'était pas 2 minutes et puis c'était un peu après que la poussière soit retombée en quelque sorte. Donc c'était intéressant. L'autre truc qui était vraiment fascinant, je trouve, dans ce procès, faut savoir qu'en France, on a une longue histoire hein, de judiciarisation, de pénalisation des chansons de rap. On peut remonter au ministère Amer il y a presque 20 ans avec Sacrifice de Poulet. On peut parler de Sniper avec le morceau Nique la France qui a fait pas mal de polémiques, de Orelsan avec le morceau Sale Pute. Bon bref, on a une longue histoire de procès par rapport à des rappeurs. Mais là, ce qui était intéressant... C'est que tout le fond de l'affaire était jugé sur le caractère fictionnel ou pas du clip et donc des lyrics de Nick Conrad. Et c'était assez intéressant parce que d'un côté on avait la défense donc du rappeur qui citait Get Out, qui citait Malcolm X, qui citait American History X pour invoquer un peu des références à la fois esthétique, cinématographique et même intellectuel pour justifier un peu, pour expliquer l'œuvre. Donc un mindset, vraiment un état d'esprit très venu des États-Unis. Et puis ben de l'autre côté, on avait la lycra et la griffe qui étaient dans le discours ultra politisé de il n'y a aucun second degré, il n'y a aucune distanciation, c'est du racisme anti-blanc et un appel tout simplement au meurtre et il faut protéger les blancs.
Et puis aussi, si je peux
vas-y.
C'est le rejet des références qui moi m'a beaucoup marqué, genre on connaît pas les références, Malcolm X non pas bien, voilà, près ça tout ce qu'il a essayé de rapporter comme élément de voilà pour lesquels sur lesquels il s'est appuyé intellectuellement, tout a été rejeté quoi.
Ouais, on demande à Nick Conrad si vraiment il pense que les références qu'il cite pour son clip sont connus des Français, si vraiment c'est évident pour un public français qu'il cite Get Out ou Malcolm X. Il dit ben si moi je les connais, pourquoi les autres ils les connaîtraient pas en fait. Ce qui est plutôt logique.
Ils ont aussi quand même remis pas mal en question son statut de rappeur. Ils ont dit mais on vous connaît pas, vous êtes pas un rappeur connu en France.
Oui. Parce que son statut d'artiste c'est toujours la même chose. On retire toujours au rap sa qualité d'art et donc au rappeur leur qualité d'artiste, comme si parce que le mec il était pas en maison de disque ça y est c'est pas un rappeur. Donc voilà, je trouvais que c'est assez fascinant cette espèce de procès qui était entièrement basé sur l'esthétique. Je trouve que en fait ça résume presque en quelques minutes, en quelques heures d'audience, ça résume tout le problème qu'on a en France à parler de race et de rap et de classe, puisque finalement le rap se trouve un peu à la croisée des chemins entre le classisme
surtout
et le...
Surtout avec la lycra, j'ai envie de dire.
Oui, surtout avec le lycra, mais la lycra, tu vois, j'en parle même pas parce que...
T'attendais pas grand chose.
Voilà, Binzer, done that, got the t-shirt, déçu mais pas choqué, enfin bref. Lisez le compte-rendu de Siam Asbag sur Twitter, c'est vraiment important de le lire sur son compte Twitter et de lui donner de la force, de le relayer et de la big upper parce que voilà, elle fait ça de manière bénévole et souvent elle se plaint sur Twitter que beaucoup de journalistes, de médias
font
des articles entiers basés sur ses comptes rendus que elle fait de manière purement militante. Donc voilà, je cite la source, allez voir ce qu'elle fait, c'est super son travail. 5 000 € d'amende ont été requis avec sursis contre Nick Conrad. On saura donc le 19 mars ce qu'il advient de lui.
Il y a un autre trade aussi qui a été fait qui est beaucoup plus axé sur les précédents judiciaires en fait. Qu'est-ce que ces condamnations ont donné lieu, et en fait on voit surtout que c'est du alors on dit non, en fait la chanson n'a rien de problématique, mais du coup on fait appel, du coup après ça va dans d'autres cours, il y a d'autres cours qui donnent des avis différents, mais généralement à la fin le truc est ouais,
toujours relax.
Alors moi, cette quinzaine, mon iconique, c'est à propos de l'élection de Miss Algérie 2019. Il y a 2 semaines, Khadija Benhamou a été élue Miss Algérie, ce qui a déclenché une belle polémique. En fait, en gros, c'est la première fois depuis la création de la compétition dans les années 80 qu'une candidate originaire du sud-ouest du pays est élue. Donc du coup, elle vient de la région d'Adrar, située à 1400 km d'Alger, vers le sud. Et elle est un peu plus foncée que la moyenne en Algérie. Alors je vais pas rentrer dans des jeux de colorisme un peu à la Nadine Morano, elle est plus claire que... etc. Mais depuis, elle se prend des torrents de commentaires racistes sur Internet. On l'a comparé par exemple à James Brown. Ce qui, toute proportion gardée, me faisait penser à ce qu'avait subi Aya Nakamura il y a quelques mois, l'été dernier, en 2018.
Ou n'importe quelle Miss France noire. Hein.
Exactement. Et il y a toujours des frustrations après l'élection d'une Miss, mais à mon avis, là, ça va beaucoup plus loin. Ça traite de la question de la négrophobie et du colorisme en Afrique du Nord. C'est, les critiques, en fait, portent sur sa couleur de peau, la texture de ses cheveux, qui est jugée pas assez lisse, donc trop crépue. Mmh. C'est un débat qui se pose donc du Maroc au Soudan. Et récemment, il y a eu ça devient un vrai sujet. Récemment, on a eu un témoignage intéressant en Tunisie avec une jeune femme qui s'appelle Gofran Binous, qui est hôtesse de l'air et qui témoignait il y a quelques jours sur Arte. En fait, en mai dernier, elle a été prise à partie par une passagère. Elle est hôtesse de l'air. Une passagère qui refusait d'être servie par une femme noire.
Je suis une femme tunisienne, noire, d'origine du sud de Gabès. J'ai vécu le racisme au collège dans un cours d'histoire géo quand un camarade, elle m'a dit que je suis esclave. Et après, à l'âge de 18 ans, j'étais dans une relation avec un mec qui, ses parents refusent notre relation, c'est à cause de ma couleur de peau.
Ouais, donc tout ça renvoie à la question complexe en fait, des Arabes à la peau foncée. mais aussi des subsahariens qui vivent ou qui transitent au Maghreb. On avait vu des images assez effrayantes en Libye l'année dernière. En fait, Khadija, donc la Miss Algérie, pour revenir à son histoire à elle, elle a tenu des propos d'apaisement après cette polémique. Elle a juste 19 ans et sa mission, c'est pas de tenir des discours engagés, mais de représenter son pays. Donc voilà, discours d'apaisement. Elle a déclaré cette semaine, pour moi, il n'y a pas de racisme, nous sommes un grand pays. Elle n'a pas non plus crié misogynoir tout en devant faire Miss Algérie. Mais c'est vrai que c'est une question hyper sensible parce que ça met plein de choses un peu en opposition, des choses compliquées, mais il y a quelque chose qui bouge. Il y a la situation est en train de changer. Par exemple, la Tunisie devient le premier pays en 2018, en octobre 2018, premier pays du monde arabe à adopter une loi sur le racisme. Donc si vous avez envie de creuser la question de la double identité noire-arabe, je vous renvoie au dernier épisode du podcast de Binge Audio, Kif Taras, où Rokaya et Grace reçoivent Samira Ibrahim, une journaliste française d'origine égyptienne et soudanaise, qui parle de sa carrière, mais aussi de la façon dont cette question a été gérée dans sa famille, son expérience personnelle, du colorisme notamment. Ne va pas au soleil, tu vas devenir encore plus noir, par exemple.
Oui. C'est un truc qu'on entend beaucoup, ouais. Ça, en Afrique.
Et puis la question du fond de teint, de la façon dont on maquille toutes ces femmes-là, enfin voilà, c'est une question sans fin. François, tu voulais réagir ?
Ouais, t'as entendu parler du groupe, alors je vais pas bien le prononcer parce que c'est un mot arabe, et Hash
non,
is Beautiful.
Pas du tout.
C'est un groupe, alors je sais pas si c'est une association, un mouvement de réseaux sociaux ou peu importe, mais en gros, c'est un groupe de gens sur internet qui sont tous d'origine nord-africaine,
ouais.
Et qui en fait veulent défendre le cheveu texturé, le cheveu frisé qui est aussi très courant chez eux. Et donc c'est marrant parce qu'ils empruntent vraiment, je trouve, dans leurs
outils et le vocabulaire.
Ouais, voilà, dans leurs outils, dans le vocabulaire, dans leurs méthodes, dans leurs techniques, c'est vraiment une transposition du mouvement Napi, mais dans le Maghreb. Et ce que je trouve très cool. Donc je savais pas si
après justement, il y a eu aussi des réactions de la part du coup des Napi en disant oui, bah ouais, vous auriez pu inventer quand même vos
propres. Bah ouais.
On va laisser les féministes régler ça entre elles. Je soulève juste le problème.
Ouais, donc avec tout ça, on se fait pas trop d'illusions. On se doute que 2019, ça va pas être facile comme année. Hein. Moi, je le sens pas trop. Mais on a quand même déjà...
L'optimisme, Mélanie, l'optimisme.
Oui,
2019,
oui.
Année du 9.
On a quand même déjà une bonne nouvelle qui est arrivée, hein, qui est pour moi un exemple brillant de Black Excellence. C'est le trailer de la comédie américaine Little.
What in the Black Jesus? Y'all gonna make me loose. How did you go from this to this? You went to bed grown and then you woke up little. White people, because black people don't have the time.
Alors, Little, c'est bien évidemment le scénario inversé de Big, le film de 88, où un enfant, après un souhait magique, devenait du jour au lendemain Tom Hanks. Et ici, c'est Jordan, une femme d'affaires sans pitié, donc noire, belle et très méchante, qui devient petite dans ce film réalisé par Tina Gordon-Kism. Et c'est Martha et Martin qu'on connaît parce qu'elle interprète la version enfant de Jordan et qui a proposé l'idée de Little, faisant d'elle, à 14 ans, la plus jeune productrice d'Hollywood.
J'ai vu ça.
Donc, hashtag Black Excellence pour de vrai. Le casting principal du film, hein, 100% noir, c'est Issa Rae, l'autrice de la série Insecure, dont on a beaucoup, beaucoup parlé dans le chip. Il y a Regina Hall, qu'on a vu dans Ally McBeal, Scary Movie, mais surtout Girl Strip, il y a quelques années.
Je suis plus Ally McBeal que Girl Strip, perso.
Et surtout, Marseille Martin, qui est quand même une future grande pour moi. Elle joue Diane dans la série Blackish, la petite. Alors moi, ce trailer, il m'a rendue très heureuse et je l'ai regardé déjà une bonne dizaine de fois parce qu'il comporte quelques éléments qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir au cinéma. Déjà, il montre des femmes noires dark skin qui affichent leurs cheveux naturels. Jordan, quand elle devient enfant, elle porte une énorme afro pendant tout le film. Je trouve ça assez génial. Le film aussi remixe un trope, le changement magique d'âge, qui est habituellement exploité mais avec des personnages blancs. Je vois pas comme ça en réfléchissant de films qui utilisent ce trope-là avec des personnages noirs. Donc Big, effectivement, mais il y a aussi 30 ans sinon rien avec Jennifer Garner ou 17 ans encore avec Zac Efron. Je sais pas si vous connaissez.
Ouais, avec Matthew Perry, Zac Efron.
Voilà, c'est ça exactement. Mais cette fois, c'est réservé à un personnage noir, donc c'est quand même intéressant. Moi, j'aime bien quand les noirs ont le droit un peu à de la science-fiction, des trucs un peu voilà. Et surtout, il y a des blagues, quoi, de l'humour, du lol. Moi, j'ai rigolé devant ce trailer, j'étais contente, c'était bon enfant parce que les blagues de Louis C.K. sur les enfants qui se font tuer dans les lycées ou Chris Rock qui dit à ses potes d'utiliser le N-word parce que c'est marrant, en fait j'en ai soupé quoi, au bénite, va des rétros, j'en peux plus. Donc Little, franchement, moi j'ai hâte. Date de sortie aux États-Unis 12 avril 2019, date de sortie française 19 juin 2019. Donc comme d'habitude, on a le droit au décalage horaire, mais stay woke et allez le voir au cinéma quand il sera à l'affiche chez nous.
Cette semaine, on vous a convoqué, on vous a posé une question pour un trash ico des réseaux. Alors, cette semaine, c'est un truc assez léger, un petit phénomène qui est en train de se créer un peu partout. C'est le film Creed 2 qui met le dawa, qui met le zbeul un peu partout, notamment en Île-de-France. Creed 2, c'est le dernier épisode en date de la franchise Rocky Creed, qui a pour star maintenant Michael B. Jordan. À tout jamais dans nos cœurs, comme Eric Killmonger dans Black Panther. C'est un film de boxe, donc oui, la bagarre. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mélanie, tu l'as vu, mais oui. T'es pas super emballée.
Bah, le scénario n'est pas top, mais ouais. Les combats sont sympas.
Bon, pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce qu'il y a plein de vidéos qui ont fait surface et on voit le public réagir comme s'il s'agissait d'un vrai combat. Donc dans les salles franciliennes, en particulier à Rosny-sous-Bois, le public se filme, met ses réactions en ligne et ça donne ça. Ou encore ça.
C'est la bagarre.
C'est la bagarre. Du coup, on vous a posé la question, le combat final de Creed 2 qui met les spectateurs en transe dans les salles parisiennes, vous en pensez quoi? Vous avez été 74 à réagir, donc il y avait la première possibilité, trash, je le materai sur M6 à 11%. Ensuite, deux iconiques à 30%. Et puis enfin, un plébiscite, 59%. Octogone sans règles.
Octogone sans règles.
Donc, Octogone sans règles l'emporte. Boubacari, ça vient plus tard. François, tu nous en parleras en long, en large, en travers.
Octogone
tout à
sans règles.
Mais comme je disais, j'ai pas encore vu le film, mais ça m'évoque déjà un cliché assez universel sur les black people au cinéma. À votre avis, est-ce que les noirs crient plus au cinéma que les autres?
En tout cas, dans Scary Movie 1, c'est le cas. Hein.
Oui.
Bah, la question minée, quoi.
Tu parlais tout à l'heure de Little, l'actrice qui joue Regina Hall, oui. Qui joue dans Little. En fait, c'est elle qui se fait trucider dans le Scream 1 parce qu'elle crie trop au cinéma. Ouais. Ouais. Et donc, elle parle trop fort au cinéma. Il y a le meurtrier qui arrive, qui lui donne un coup de couteau. Et en fait, tous les blancs qui sont derrière en ont trop marre et la butent elle aussi. Donc oui, ça dépend des...
Attends, t'as dit dans le Scream 1
Non, dans
Scary Movie 1, tu veux dire.
Scary Movie 1, pardon. Oui.
Scream est un film sérieux.
Scream oui, est relativement
sérieux. Attends, non. C'était ça, Scream?
C'était chaud.
Ah, je la reprends ou pas, du coup?
Non, c'est pas grave, vas-y, continue.
On avait déjà parlé de ça, de la façon dont le public réagit, notamment en salle, dans un vieil épisode de Noir is the New Black, on avait reçu Fantasila pour parler justement des films d'horreur et comment le public aussi réagit dans la salle si on voit
tel
film.
Ouais, parce qu'il y avait eu des réactions sur Get Out, en fait, si mes souvenirs sont bons, dans les salles où il y avait des noirs, à la fin, ça, quand le film vraiment arrive à son apogée, ça chauffe, alors qu'effectivement, moi je l'ai vu aussi dans une salle de critiques blancs et c'était pas vraiment la même ambiance.
Moi, je pense aussi que c'est l'effet avant-première. Dans le cas de Get Out ou de Black Panther, il y avait un effet avant-première où tu avais des salles où le public était massivement, majoritairement noir. Après, tu vas aux Champs-Élysées ou n'importe où, genre un public mixte, j'ai l'impression que tu as moins cet effet-là, quoi. C'est mon avis.
Bah, c'est justement ça. Moi, j'ai envie d'aller le voir très rapidement, en fait, même si les critiques sont pas bonnes, juste pour essayer de vivre le truc et je vous ferai un retour. Voilà, c'est tout pour moi. Allez voir Creed 2.
Donc, il y a quelques jours, le documentaire Surviving R. Kelly a été diffusé en 6 parties sur la chaîne américaine Lifetime. Et on peut dire qu'il a déclenché une chaîne de réactions, hein, parce que ça parle des abus, frontalement des abus de R. Kelly. There's a difference between R. Kelly and Robert. R. Kelly is this fun, laughing, loving guy. But Robert is the devil. Is the devil. Is the devil. R. Kelly is at the top of the charts, but he may be in for a fall. He was arrested today on 21 counts of child pornography. Kelly is accused of videotaping himself having sex with an underage girl. Ouais, donc dans Surviving R. Kelly, hein, plusieurs femmes témoignent face caméra en tant que survivantes d'agressions sexuelles très violentes, on peut dire quand même, perpétrées par le chanteur. Donc elles sont poussées quand même par un documentaire qui parfois s'égare un petit peu dans le voyeurisme, je trouve. Et elles expliquent le modus operandi de Robert Kelly, donc, qui est de repérer des jeunes filles aux abords des lycées, dont son ancien lycée de Kenwood, et dans les McDo. et les inviter à ses concerts, puis communiquer avec elle par téléphone, par texto, pour finir par en fait entamer des relations avec elle qui se terminent par des situations en fait où elles sont sous son emprise et vivent avec lui dans sa maison. Alors elle détaille aussi assez crûment les abus qu'elles ont subis et le double visage notamment du chanteur. Donc comme on a entendu dans l'extrait, on a R. Kelly, le chanteur sexy, tendre et romantique, et Robert, celui qui les viole, qui les empêche de sortir, qui les empêche de parler, de regarder dans les yeux sans son autorisation, qui les force à accomplir des actes sexuels dégradants, des plans à trois en les filmant et qui les bat en plus. Donc c'est pas nouveau en fait, c'est toutes ces nouvelles, enfin toutes ces nouvelles infos qu'on a sont faussement nouvelles, puisque ça fait quand même des années qu'on sait que R. Kelly est problématique. Les exposés sur lui, en fait, se sont quand même accumulés ces dernières années. Il y a eu des articles, notamment un reportage de BuzzFeed, réalisé par le journaliste Jim DeRogatis, qui détaille le sex cult de R. Kelly, composé de très jeunes femmes qui sont enfermées chez lui. Certaines, alors, de leur propre volonté, je mets des guillemets, hein, parce que c'est un peu compliqué de savoir où est la volonté quand on est mineur. Et dans l'article, en fait, il parle de trois couples de parents qui cherchent à récupérer leur fille en fait, et qui, par tous les moyens, et qui n'y arrivent pas. Donc plus largement, l'affaire, on va dire R. Kelly plus large, c'est le fait que la pédophilie R. Kelly, c'est une affaire qui remonte à loin quand même. Hein. Depuis les années 90, il y a des rumeurs, des témoignages sur les comportements du chanteur qui flottent. Comme dans le cas en fait, d'Harvey Weinstein, les gens savaient depuis longtemps. C'était un secret de polichinelle. Et on se rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un de mes iconiques de l'année dernière, qui était le rappeur Vince Staples à Coachella, qui prenait à partie une journaliste et qui expliquait en fait que R. Kelly était un pédophile, qu'il avait fait une sextape avec une gamine, et la journaliste était hyper mal à l'aise. Enfin, voilà, on savait quoi. J'ai fait une petite chronologie de R. Kelly. Sur ce sujet-là. Donc en 1994, R. Kelly épouse la chanteuse Alia lorsqu'elle a 15 ans, après avoir écrit et produit son premier album qui s'appelle Age Ain't Nothing But a Number.
L'âge n'est qu'un chiffre.
Voilà. Le mariage sera annulé l'année suivante. En 2002, il y a cette vidéo où R. Kelly se filme en train d'avoir des relations sexuelles et d'uriner dans la bouche d'une jeune fille de 14 ans, qui va l'amener en procès en 2008 pour pédopornographie, dont il ressort acquitté de 21 chefs d'accusation. En 2017, une ex l'accuse de lui avoir transmis une MST de manière consciente, voulue, et en fait, elle dit que c'est un motif répété chez lui, qui fait ça de manière vraiment consciente. En 2018, le mouvement Time's Up, suite à MeToo, lance la campagne hashtag Mute R. Kelly, visant à supprimer la musique de R. Kelly des plateformes de streaming. Et toujours en 2018, R. Kelly publie la chanson I Admit sur SoundCloud. Et dans ce titre de 19 minutes, pardon, il admet des infidélités, il admet aller dans des strip clubs, il admet qu'il a été violé lui-même quand il était enfant.
Il avait déjà dit dans sa biographie.
Oui, dans sa biographie. Ouais, ouais. Alors là, il le répète. Mais il récuse toute accusation d'agression sexuelle et de violence dans la même chanson. Ouais. Voilà. Il dit qu'il est victime d'un complot, d'une agression. Alors, pourquoi cette affaire, elle fait tant parler aux États-Unis et on se dit, hein, pas tant que ça en France, on en parle. Mais c'est pas un sujet de société aussi fort qu'aux États-Unis, j'ai l'impression. Alors, chez nous, je pense qu'on le connaît surtout R. Kelly pour I Believe I Can Fly, Ignition, ouais. Voilà, les tubes en fait de R. Kelly des années 90.
Les tubes qui dépassent le R&B, I Believe I Can Fly, c'est le tournant pop.
Ouais. Et puis c'est même, ça, en France, on a eu une parodie avec Cadmerad.
Ouais.
Ouais. Donc il y a vraiment un truc, je pense qu'on connaît vraiment pour ça.
Je connais même pas la parodie de Cadmerad, franchement.
C'est vrai?
Je connais plus l'original.
Bah, partout, dès qu'il montait sur scène quelque part, il chantait I Believe I Can Fly.
Ouais.
Cadmerad?
Ouais. Ouais, ouais, c'était son truc, ouais.
White culture.
Il est kabyle en plus. Enfin bref, ouais, voilà.
C'est de la white culture quand même.
Mais du coup, c'est vrai que l'apogée de la célébrité de R. Kelly en France, c'est vraiment les années 2000. J'ai l'impression que dans les années 2010, il a un peu passé, pas à la trappe, mais c'est pas le mec dont on parle le plus souvent quand on parle de R&B, quoi.
Ouais.
Aux États-Unis, alors le chanteur fait vraiment partie de la fabrique de la pop culture. Hein. Ses chansons sont jouées dans les mariages, comme tu disais, François, et son image romantique perdure. Les gens, ils aiment tellement sa musique que ses émotions, en fait, les émotions qu'ils ressentent face à la musique de R. Kelly passent au-dessus de la réalité de ce qu'il a fait. Et en ça, on peut le relier un petit peu à Bill Cosby. au final. Avant que vraiment sa chute soit faite, il y avait des gens qui disaient mais non, mais le Cosby Show, c'est toute mon enfance, j'adore, c'est génial et je m'en fous.
Et puis de la même manière que Bill Cosby, on en a parlé ici, mais comme ce mec très connu aux States, mais que nous, bon, on le regardait sur le câble, de la même manière, je pense qu'il y a un décalage. On perçoit pas Bill Cosby comme cette énorme star qu'il est aux États-Unis et plus particulièrement dans la communauté afro-américaine. C'est pareil pour R. Kelly. Pour les Afro-Américains, R. Kelly, c'est Johnny Hallyday, peu ou prou. Il est souvent considéré comme le plus grand chanteur de soul et R&B depuis Marvin Gaye. Enfin, c'est énorme. C'est comme si ici, je sais pas qui on pourrait comparer. J'ai comparé Johnny Hallyday, mais qui on pourrait comparer un mec de vivant aujourd'hui qui ferait quelque chose comme ça.
Tu sais, en chanteur, moi, en
chanteur ou même acteur, si
acteur,
tu veux.
Acteur, je me disais Danny Boone, un truc, tu vois, vraiment un mec. Danny Boone, il est hyper populaire, tu vois.
Ouais, mais R. Kelly, c'est bien plus
tu
énorme.
Penses que c'est aussi
largement. R. Kelly, il a révolutionné la musique R&B, la musique américaine tout
court. Jean-Jacques Goldman, par exemple.
Ouais. Jean-Jacques Goldman. Imaginez que Jean-Jacques Goldman se trouve accusé de pédopornographie et de secte sexuelle, de viol, le tout sur une durée de 20 piges. Vous imaginez le truc, quoi. C'est, pour moi, c'est l'équivalent que ça a eu dans la psyché américaine, quoi.
Ouais, donc un truc quand même fort, quoi.
Ouais.
Après, moi, je pense qu'il y a aussi l'élément racial qu'on peut rajouter sur la situation américaine qui est à prendre en compte, hein. Les victimes de R. Kelly, c'est toutes des jeunes femmes et des enfants noirs. Ouais. Et on peut penser que si elles avaient été blanches, l'Amérique puritaine aurait réagi peut-être avec plus de vigueur, hein, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
On disait ça au Daily Show, que si, au lieu d'essayer de se marier avec Alia, il essaie de se marier avec la petite meuf de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Les gens lui ont répondu « I believe you can fly your ass to prison ».
J'avais vu ça.
Tu vois, et oui, effectivement, en s'attaquant à des victimes qui viennent, pas seulement qui sont noires, mais aussi qui viennent parfois de milieux sociaux défavorisés et qui ont des ambitions. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup pendant le documentaire.
Elle chante, elle danse. C'est,
tu veux chanter, viens me voir, je vais t'apprendre à chanter, je vais te donner des opportunités, etc. Et effectivement, elles sont starstruck, elles sont un peu paralysées devant quelqu'un qui, pour elles, est une légende. Un dernier exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'était cette jeune femme qui, pendant des années, séchait les cours pour aller voir R. Kelly. À chaque fois qu'il allait en audition à son procès, R. Kelly l'a repéré et après
il l'a rappelé, voilà, exactement.
Ouais.
En mode ouais, merci de ton soutien, etc. Et c'est là qu'ils ont commencé à se voir, c'est ça.
Ouais, c'est ça, exactement.
Mais en fait, il y a tout un truc autour de ça, c'est-à-dire que pour moi, ces gamines, elles ont été abandonnées en fait c'est-à-dire que autour l'entourage de R. Kelly avait construit, je pense, un truc, tu vois, c'est-à-dire comme Weinstein, on le savait qu'en fait il y avait des assistants, il y avait des gens qui savaient mais qui disaient rien, mais qui justement facilitaient le
De faire tout ce qu'il a fait sans soutien.
Tu veux demain Kevin devenir R. Kelly, tu ne pourrais pas, non, tu serais arrêté au bout de deux semaines.
Mais c'est une secte sexuelle qui marche parce que aussi il a énormément d'argent, qu'il est soutenu par une maison de disques, un entourage,
un système. Il y a une citation dans le docu de Sparkle, la chanteuse R&B, l'une des chanteuses R&B pour qui il a produit. Bon, déjà, en règle générale, tous les témoignages de Sparkle sont vraiment parmi les plus poignants, parce que en fait la nièce de Sparkle a été également victime de R. Kelly.
Et c'est elle qui a amené sa nièce, qui l'a fait rencontrer.
C'est elle qui a présenté sa nièce à R. Kelly. Enfin, c'était vraiment dur à suivre. Et à un moment, il y a une citation que j'aime bien. Où Sparkle dit j'étais dans une pièce avec un cadre de l'industrie de la musique, et alors attendez, je vous retrouve la citation parce que je l'ai notée. Elle dit, le mec dit I don't care if it's him on this tape, en parlant de la sextape de 2002. I don't care if it's him on this tape, we cannot afford to lose him. Donc j'ai rien à foutre que ce soit lui ou pas sur la vidéo, que ce soit prouvé qu'il soit coupable ou pas, on n'a pas les moyens de perdre ce mec. En gros, il rapporte beaucoup trop d'argent, on peut pas le perdre.
Ça, c'est Sparkle qui dit ça. Ouais.
C'est Sparkle qui dit ça, elle était dans la pièce à ce moment-là, et sa seule réaction, c'est waouh, tu vois.
Il y a un truc que je voudrais ajouter par rapport à Sparkle, justement, et pour moi c'est tout le malaise et toute la contradiction en fait de cette affaire, c'est que Sparkle c'est une chanteuse qui a eu un tube à la fin des années 90 ou début des années 2000 avec R. Kelly, et il passe un extrait de la chanson que je connaissais, que j'adorais à l'époque, qui est une chanson donc de Sparkle en featuring avec R. Kelly, qui s'appelle Be Careful, et j'avais oublié la chanson et du coup je me retrouve à shazamer la chanson pour la retrouver, et c'est tout le malaise en fait de doit-on, comment faire pour écouter, pas écouter, qu'est-ce qu'on fait, comment on se situe.
Ouais, on va reparler de doit-on ou peut-on écouter R. Kelly, mais c'est vrai qu'il y a un effet de curiosité.
J'ai oublié ce morceau là, mais oui, c'est R. Kelly aussi qui a produit ça, c'est horrible.
Il y a un effet de curiosité comme quand un artiste meurt, genre quand Mac Miller il est mort, son album il a piqué dans les charts.
Triple XXXTentacion aussi.
Triple XXXTentacion c'est pareil pour n'importe quel artiste, dès qu'un artiste disparaît, on par curiosité ou pour faire une sorte de dernier hommage, on se retrouve à écouter ses musiques. Moi, là, la semaine dernière, j'ai écouté plein de sons de R. Kelly, comme une sorte de curiosité morbide, et puis une forme...
C'est toi qui as fait monter le nombre d'écoutes, là, les streams.
Ouais, c'est pour ça que Jada Pinkett Smith n'est pas du tout contente contre moi, parce que j'ai fait monter les streams. Non, mais c'est une forme d'adieu aussi. Tu reviens une dernière fois sur le morceau avant de dire, bon, ben, il y aura un avant et un après, quoi.
J'ai exactement la même chose, mais j'en parlerai un petit peu plus tard.
Okay.
Bah de toute façon, pour moi, c'est la suite logique du débat, en fait. C'est justement, vous disiez, c'est ce mec pèse hyper lourd, ce mec a un prestige, ce mec a une aura dans l'industrie de la musique qui lui permet justement de perpétrer tout ça, quoi. Du coup, l'écouter ou pas, ça peut être un débat. Je pense qu'on peut en parler.
J'ai une mini question avant.
Vas-y.
Au moment de l'affaire Alia et de l'affaire de la sextape, comment est-ce que vous perceviez, on était ados à ce moment-là.
On était ados.
Comment est-ce que vous perceviez R. Kelly, comment est-ce que vous perceviez l'affaire? Moi, je me souviens que je savais pour la sextape, je savais pour
Tu
pour
savais Alia. À l'époque où ça s'est passé, parce que moi il y avait pas, enfin je sais pas, c'était
si,
2002.
Ah, peut-être que ça s'est su 4-5 ans après, je sais pas, mais en tout cas ça s'est
moi,
su dans les années 2000.
Au moment où ça s'est passé, je savais pas.
Ouais, moi je savais, et je me rappelle, j'en parlais avec ma sœur et ma cousine. Et c'est bizarre, quoi. On était comme pas anesthésiés, mais un peu insensibilisés. On était en mode. Moi, je me rappelle que je percevais. Après, j'étais jeune hein, aussi. Mais je percevais le truc comme quelque chose. La relation avec Alia, je percevais le truc comme quelque chose de vaguement scandaleux, de sulfureux. Je savais que c'était immoral. Et je me rappelle. Mais je percevais ça comme une forme de gossip. Tu vois, pour moi, c'était une sorte de scoop de closer. On disait, ouais, R. Kelly, c'est une grande star, mais en vrai, c'est un petit peu un pervers, hein. C'est un petit peu un pervers sur les bords. On sait qu'il fait des trucs pas très nets, quoi, tu vois. On faisait ça avec un petit sourire un peu sardonique, tu vois, en mode, bon, on sait que lui et Alia, c'est un peu louche tout ça, hein. Il y a des preuves, hein. Mais on était pas en mode, on savait que c'était immoral, etc. Mais on se disait pas, c'est absolument. Bah,
la culture était peut-être pas tout à fait la même encore.
C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que, il y avait déjà des gens qui en parlaient, des comédiens qui en parlaient très 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 clairement en défendant R. Kelly ou en défendant pas R. Kelly, mais en tout cas qui parlaient de tous, ils sont un peu pris par l'énormité du truc et comment en fait ils disent tous et c'est montré aussi dans le reportage Surviving R. Kelly qu'au moment où le truc de la sextape où il urine sur une mineure sort, il sort Ignition the Remix.
Ouais.
Et c'est un des plus gros tubes des années 2000.
Et
donc,
Chocolate Factory, dont est issu le morceau, c'est son meilleur album de sa carrière.
Et la culture a tellement changé. Le moment où ça aussi ça se passe, c'est le moment des Jeux Olympiques de Salt Lake City.
Ouais,
c'est
ouais,
lui,
ouais.
Qui fait l'ouverture des JO, enroulé, drapé dans le drapeau américain. Mmh. 16 ans, 17 ans plus tard, bon. Voilà, on a tous changé sur ça.
Toi, quand t'étais ado, tu voyais ça comment, cette histoire?
Non, en fait, j'avais pas la chronologie. J'avais un ou deux trucs sur R. Kelly. Genre, j'ai dû apprendre pour Alia, et puis ensuite entendre parler de l'histoire de la sextape sans l'avoir jamais vu. Je l'ai toujours pas vu. Et donc, du coup, j'ai pas spécialement pensé qu'il y avait un enchaînement de tout ça d'horreur.
Oui,
et
voilà,
que...
c'est quand tu vois le documentaire, je pense que ça t'arrive en pleine tête et tu te dis, ah oui, mais comment ça a pu se passer comme ça sans qu'il y ait de conséquences, alors que c'était là, quoi, c'était face à nous. Et c'est vrai que nous, on recevait peut-être un petit bout par-ci, un petit bout par-là.
Ouais, des bribes d'infos, quoi.
Ça nous permettait de dédramatiser le truc et de dire, ouais, bon, ça va, ok, il est un peu bizarre, mais voilà, quoi.
Je pense qu'on se rendait pas compte de la gravité
de la, réalité,
de la situation à l'époque. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ça a pris tant de temps à exploser, hein. Outre le fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, MeToo, c'est peut-être pour ça. Il y a une...
et le profil de ces victimes aussi, je pense.
Ouais, bien, non, parce qu'en France...
Mais je suis sûr que ça aurait fait un plus gros scandale, tu vois.
Je suis d'accord. Ce que je dis, c'est qu'en France, ce standard... Pour nous, les Français, le standard,
mais en France,
le double
la
standard...
La France, c'est quand même un pays très particulier où il y a des preuves contre Luc Besson et il tombe pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment... C'est là où Louis C.K. est venu se réfugier,
Tu
vois. Bon,
ce que je dis, c'est que le double standard des fans noirs, je dis pas qu'il existe pas en France, mais il est atténué, quoi. Enfin, mais il y a une interview de Dream Hampton, la journaliste rap et activiste productrice du documentaire sur Evan R. Kelly sur un site qui s'appelle Shadow and Act où on lui demande pourquoi les gens ont pris autant de temps à se rendre compte et pourquoi la mise sur la place publique de R. Kelly sur le bûcher a pris autant de temps et elle a une réponse qui est un petit peu tristoune, un petit peu décourageante en fait, parce qu'elle dit que finalement c'est pas tellement la gravité des crimes. Évidemment que la gravité des crimes et leur exposition, l'accumulation des témoignages, évidemment que ça a joué un gros rôle. Et puis le documentaire, évidemment, ça a joué un gros rôle dans le fait d'exposer R. Kelly. Mais elle dit aussi et surtout que c'est parce qu'R. Kelly est plus aussi important qu'avant.
Oui, mais R. c'est R.
Kelly est plus
ça.
Aussi important qu'avant. Elle dit R. Kelly aujourd'hui, c'est
quand
un.
Quand les mecs commencent à tomber que.
Voilà, elle dit c'est aussi parce que. C'est aussi parce que R. Kelly, c'est un homme de 51 ans aujourd'hui qui n'est plus le leader en fait de la scène R&B. Il est beaucoup moins relevant, beaucoup moins important, beaucoup moins pertinent que des artistes plus jeunes comme Frank Ocean, The Weeknd ou Ty Dolla $ign. Et que du coup, ça lui a enlevé son aura d'invisibilité, d'invincibilité, sa cape d'invisibilité. Et que malheureusement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui R. Kelly avait 40 ans, 35 ans, et que sa musique
était
encore...
au top.
Voilà, s'il était encore au top, peut-être même que ça n'aurait pas suffi, quoi.
Mais c'est marrant parce que Weinstein, c'est exactement la même chose qui s'est passée. C'est quand sa boîte a commencé à couler qu'il n'avait plus le même pouvoir, en fait, la même emprise sur les Oscars et sur Hollywood, que les langues se sont déliées, en fait.
Ouais.
Je pense qu'il y a un lien de cause à effet.
C'est triste. Ça n'a rien à voir avec la moralité ou avec la justice.
Ah ouais, non, bien sûr.
Instinctivement, R. Kelly aussi, je pense pas que ce soit un génie intellectuel, même si c'est un génie musical, c'est mentionné à plusieurs fois dans le documentaire. Mais il y a un truc où il a, à mon avis, été très malin, c'est qu'il s'est tout de suite, très rapidement, rangé du côté de la respectabilité. Un peu comme l'a fait Bill Cosby. C'est-à-dire qu'il a, accusé des vices les plus horribles. Et en plus, sur scène, il fait une musique de plus en plus pornographique. Il prend une posture, il prend des postures vraiment outrageantes, etc. Mais il va se ranger du côté de l'Église, il va se ranger du côté des leaders des droits civiques aux États-Unis qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, le soutiennent.
Était de son côté.
Ouais. De son côté.
Ouais, ouais. Tu parles de posture outrageante. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Moi, je l'ai vue sur le compte Instagram du rappeur Cameron, diplomate, Deep Set
ouais,
for
ouais,
Life.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
qui poste en gros un extrait de concert de R. Kelly. Et donc, c'est à l'Apollo Theater à New York, je sais pas quelle année exactement. Et en fait, le mec, bon, il fait ça, il fait ses danses un petit peu sexuelles. Et à un moment, il pisse littéralement sur le public. Il pisse pas littéralement sur le public, c'est... en fait. C'est un accessoire. En fait, il a une sorte d'accessoire de jet d'eau caché dans son pantalon. Mais vraiment, c'est tellement bien fait, tu t'en rends pas compte. Avant qu'il sorte le jet d'eau, tu fais, mais attends, mais
c'est pas un fake? Je pensais que c'était une incrustation.
Ah bon?
Je sais pas, je me demandais.
En même temps, Cameron n'a pas fait le fact-checking et moi, je ne fact-check pas.
Et François
Cameron.
N'a pas fait de fact-checking.
Ah ben, je fact-check pas Cameron, moi, excusez-moi.
Ok, marrant.
Ouais. Non, mais après, sur ça, sur le côté pourquoi on n'a pas réagi plus tôt et qu'est-ce qui l'a protégé, je pense qu'il faut aussi soulever l'industrie, en fait, les artistes qui l'ont protégé, qui ont collaboré avec lui, sachant, je pense, bah, en fait, comme le grand public, sachant ce qui se passait, mais disant, bon, oui, bon, ok, il est un peu bizarre, mais. Voilà. Et je pense notamment à Lady Gaga, parce que je trouve que c'est intéressant sa réaction. Elle est en recherche d'Oscar. Hein, elle attend son Oscar pour A Star Is Born. Et bam, le documentaire sur R. Kelly sort. On apprend qu'elle n'a pas voulu participer au documentaire. Et Lady Gaga, c'est quand même une artiste qui s'est vachement positionnée sur le féminisme, qui a parlé des agressions sexuelles qu'elle avait vécues, et donc elle s'est retrouvée le cul entre deux chaises, où on est post-MeToo, et tu peux pas aller aux Oscars sachant que, ok, t'as collaboré avec un mec, t'as fait une chanson qui s'appelait Do What You Want With My Body, t'as fait un clip avec Terry Richardson qui filmait,
allez,
R. Kelly sur toi, tu te fais violer, t'es dans le coma, tu te réveilles, t'es enceinte de R. Kelly, enfin...
Pourquoi identifier Lady Gaga?
Alors, j'ai commencé par Lady Gaga parce que je trouvais que c'était intéressant parce qu'elle était dans cette position-là, justement, de féministe, tu vois, pris entre deux feux. Et donc, elle a fait elle s'est désolidarisée de R. Kelly dans un iOS press release, comme
j'ai dit. Un truc comme ça, quoi.
Voilà. Et dans son truc, elle disait « j'étais pas au courant, quoi ». Et t'es là, genre, t'étais pas au courant, on t'a demandé de participer au documentaire, t'as dit non. En 2013, t'as dit oui, ok, il y a des. Elle a donné une interview en disant oui, ok, il y a des trucs qui circulent sur lui, mais c'est pas vrai. Enfin, bien sûr qu'elle était au courant.
Pour moi, le plus grave, c'est le silence le plus grave dans toutes les personnes que Dream Henton a approché et qui ont refusé de participer, c'est Jay-Z.
Oui, voilà, j'allais souligner, effectivement, il y a eu Jay-Z qui a refusé voilà.
Parce que le mec a fait des tournées, le mec a quand même fait deux albums, Best of Both Worlds et Unfinished Business avec R. Kelly, et lui-même, il est en plus plus ou moins, pareil, tu vois, c'est des racontars, et si ça se trouve, dans 10 ans, il va y avoir un énorme docu Surviving Jay-Z, tu vois, mais on sait aussi que...
Il y a des trucs, quoi.
Bah, le bruit de couloir sur Jay-Z, c'est qu'il a eu des relations avec la rappeuse Foxy Brown, qu'il produisait à l'époque, quand elle avait 16 ans. Et lui, un truc comme 26, 27 ans. Ouais. Bref.
Ouais. On peut aussi parler de Kendrick Lamar qui avait réagi au hashtag Mute R. Kelly qui poussait en fait les plateformes à enlever la musique de R. Kelly en disant bah, si vous enlevez la musique de R. Kelly de Spotify, vous enlevez la mienne aussi parce que voilà, je ne veux pas rester si R. Kelly ne peut pas y être. Donc c'est très contradictoire parce que ça ne veut pas dire qui dit c'est des menteuses, mais ça veut dire eh ben, même si ça existe, je m'en fous. Moi, là, pour moi, c'est important que la musique de R. Kelly vive et que c'est plus important que ce qu'il fait derrière. Donc c'est quand même un très fort positionnement, je pense.
Tu serais artiste, François, tu réagirais comment si t'avais sorti ton album de rap, t'avais fait des millions de views?
François Olak.
Est-ce que tu te mettrais de quel côté dans l'industrie?
Tu veux dire si
par rapport à la censure, en tout cas
si c'était une resta.
Démonétisation. Démonétiser R. Kelly.
Bah, je ferais comme John Legend.
Tu serais dans le documentaire?
Bah, franchement, ouais, grave. Enfin, quelle question.
Parce que John Legend, on lui a dit, mais c'est courageux de ta part d'avoir fait le documentaire. Tu vois, Jay-Z, il n'y est pas allé.
John Legend, je sais même pas pourquoi il était dans le docu. Parce que, à part qu'il est originaire de Chicago et que c'est une grande figure de la musique, il connaît pas spécialement, il connaît forcément R. Kelly dans le sens où c'est un mec de l'industrie. Il est originaire de Chicago, donc il a forcément dû rencontrer, croiser, discuter avec R. Kelly, mais il le connaît pas personnellement. Il a pas fait d'album avec lui comme Jay-Z. Il a pas collaboré avec lui. Il a pas fait de trucs comme ça. Donc bon, c'était un peu la caution artistique.
Ouais,
mais
justement, c'était peut-être le seul artiste de premier ordre.
Oui, c'est surtout pour ça.
C'était le seul A-list, quoi.
C'est surtout pour ça qu'il est dedans, je pense.
Parce que Sparkle, j'y reviens encore une fois, mais elle a brûlé sa carrière en s'opposant à R. Kelly, en fait. Parce que Sparkle, c'est sa nièce, en fait, qui est dans la sextape. Et elle l'a dit, elle s'est retournée contre R. Kelly, même la famille de sa nièce l'a pas suivi, et du coup, sa carrière, bye-bye, quoi.
Ouais, c'était fini. Ouais.
Mais sur la question de ce qu'il faut enlever, de ce qu'il peut rester, c'est un débat, en fait. Tout le monde galère avec ça, en fait. Dès qu'on commence à parler de musique en 2018, en 2019, cette question se pose. Si vous écoutez NoFun, à chaque fois qu'il parle de Kodak Black, de Triple Extentation, de 69,
il y a un disclaimer, voilà. Quoi, en mode.
Soit au début, soit à la fin, il se retrouve à faire bon, ben, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Moi, j'ai voulu jouer un petit jeu et je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on peut trouver de vraiment problématique sur d'autres sujets qui de trucs encore présents sur des plateformes de streaming, et j'ai trouvé ça.
Maréchal, nous voilà.
La chanson qui,
je ne connais pas, j'ai pas la ref, comme on dit.
C'est une chanson qui a été écrite à la gloire du maréchal Pétain. Maréchal nous voilà.
Maréchal nous voilà, écrit dans les années 40 par un certain André Dassary, en fait, qui est quelqu'un qui d'abord a été arrêté en 40, puis a été libéré et a chanté à la gloire du régime entre 40 et 44. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si à la libération on lui a fait quelques reproches, hein, d'avoir un peu collaboré, jusqu'aux années 50, il a un énorme succès et il est disque d'or même en 1952. Ils vendent le disque d'or à l'ancienne, hein, celui où il faut vendre des centaines de milliers pour l'avoir, et ça c'est toujours en ligne. Et je sais pas, en fait, dans notre époque où on fait un peu des concurrences de causes, de choses comme ça, je ne sais pas si ça doit être encore historiquement, ça fait l'apologie, en fait.
J'aime bien ton argument, ça s'apparente un petit peu à un point Godwin, mais ça me fait marrer quand même. Ça reste valable.
Je suis vice-champion de France de point Godwin, attention.
Ah ouais, je savais pas.
Alors moi j'ai une réponse quand même assez simple, ouais, c'est que je dis on vire tout le monde, parce que il y a beaucoup de gens qui disent non, mais sur les réseaux, qui disent si on annule R. Kelly, on va annuler tout. Ok. Moi, ça me dérange pas. Hein.
Ayons-le du coup, ce débat. Est-ce que tu penses, Mel, est-ce qu'on peut encore écouter R. Kelly en 2019?
Moi, personnellement, je pense pas. Parce que, pour moi, le fait de streamer et d'aller à ses concerts, ça finance ce mode de vie. Et on l'a dit, en fait, c'est ça qui le protège. C'est le fait qu'il a une aura, qu'il a des financements, qu'il y a des mecs avec qui il bosse dans les maisons de disques qui disent non, il nous rapporte de l'argent, donc on fera rien, quoi. Donc, pour moi, quand tu soutiens ce mec, et au final tu soutiens ce qu'il fait, quoi. Et là, il est plus question vraiment de se dire non, mais je sépare l'homme de l'art, parce que en fait l'homme est son art. Et dans la conversation, on a vu que il y avait des jeunes filles en studio qui l'enregistraient des chansons qui parlaient de sexe au sujet de gamines.
Son art lui permet d'être l'homme qu'il est.
Exactement. Et donc là, on est vraiment dans une boucle, c'est-à-dire que pour en sortir, c'est très compliqué. Ça veut dire que si tu finances ça, tu finances ce qu'il fait. Il y a pas de il y a, il y a, il y a y a pas à chier, quoi. C'est
au-delà de la question purement économique, est-ce que tu penses que le fait d'écouter une chanson d'R. Kelly est un acte immoral
si
en
tu l'écoutes
soi,
sur CD
ou...
Alors moi,
ouais, les gens, t'as déjà acheté ton CD.
Moi, j'ai voilà. Moi, c'est ça. Et... ma réponse, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui disent, mais comment tu fais pour les films de Woody Allen? Bah, moi, je vais pas voir au cinéma les films de Woody Allen. Je suis désolée, je les pirate si vraiment j'ai envie de le voir parce qu'il a eu un Oscar, comme j'ai fait avec Blue Jasmine. Mais je ne finance pas ces mecs. C'est-à-dire
d'accord,
que
au-delà
je...
de la constitution justement du financement.
Voilà. Bah, moi,
le fait de mater un Woody
moi,
Allen.
Moi, c'est juste
pour
ça. Après, voilà, si tu veux mater un Woody Allen chez Watt sur Popcorn Time, pourquoi pas, tu vois?
D'accord.
Mais moi, c'est donner de l'argent. C'est ma limite. C'est-à-dire
oui,
que voilà.
On vous mettra d'accord. un lien pour faire comment faire pour trouver les trucs en torrent pour pouvoir pirater tout ça.
Allez,
mais
sur
de façon civique, hein, de façon civique. Hein.
Ouais, moi j'ai l'impression que R. Kelly il représente un petit peu le pinacle de cette de ce débat qui est récurrent depuis quelques années, depuis que la justice sociale a investi la pop culture de justement l'homme, l'artiste. Est-ce que finalement notre consommation culturelle doit refléter ou pas nos convictions sociales et politiques? Et franchement, j'ai peut-être une opinion unpopular, comme on dit, sur Twitter à propos de cette question de peut-on écouter R. Kelly? Parce qu'en fait, je suis un peu comme toi, Mel, c'est-à-dire que je pense qu'on peut écouter R. Kelly sous certaines conditions. Pour moi, en fait, la question, elle se divise en deux volets. Il y a la question morale et la question économique. Toi, je te demandais, Mel, est-ce que... Hors du côté financement, tu vois, qu'est-ce que tu penses de la question? Sur la question économique, je suis d'accord, faut pas donner d'argent à R. Kelly. Mais je trouve que cette logique, déjà, elle a ses limites. Parce que, qu'est-ce que tu fais, par exemple, des morceaux qui ont été produits par R. Kelly? R. Kelly, il a produit le premier album d'Alia. Il a produit des morceaux pour Britney Spears. Pour Michael Jackson, pour B2K, pour Marcus Houston, pour Fally Ipupa.
Après, tu parles du moral ou de l'économique?
Là, je parle de l'économie pour l'instant.
Bah,
la
même chose.
Donc tu vas aller sur Spotify, sur Wikipédia plutôt, tu vas regarder la liste de tout, parce que j'ai regardé, hein, la liste de tous les morceaux qui ont été produits par R. Kelly, parce qu'il touche des royalties dessus.
Oui,
aussi,
c'est
en
ça,
fait.
Il touche des royalties économique. Dès qu'il a produit ou écrit, ça c'est
bien
clair.
Bien sûr, il a des droits d'auteur,
il a pas,
des trucs
il
comme
a
ça.
Il n'a pas produit pour les Spice Girls?
je n'écoute pas la discographie des Spice Girls au quotidien.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les défenseurs de la question économique, il y a un énorme angle mort qui se pose.
Oui, c'est le fait qu'ils touchent quand même de l'argent.
Voilà.
Après, c'est aussi pour ça que Lady Gaga a enlevé d'ailleurs son titre qu'elle a fait avec lui, justement pour ça en fait.
Mais
donc effectivement, la question se pose. Après, c'est comme tout, on peut pas être parfait, mais on cherche pas la perfection en fait. On cherche le fait de ne pas volontairement tu vois, donner de l'argent, c'est
quasiment aussi dur en fait que d'être végane.
C'est ce que j'allais dire. Ouais. J'allais faire une comparaison avec le véganisme et le végétarisme. Enfin, tu vois, les gens ils te disaient, mais alors si t'es dans le désert, qu'il fait 50 degrés et que t'as un morceau de viande devant toi, là tu manges de la viande, hein? Bah, enfin voilà, évidemment que oui, mais est-ce que ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, je peux pas faire un effort pour manger moins de viande?
Alors, je suis peut-être un peu cynique, mais moi en fait, j'accorde aucun pouvoir.
À l'argent.
Non, pas à l'argent. à l'action individuelle, en fait. Moi, je pense que tu l'écoutes ou pas, à ton échelle, on n'en a rien à foutre, en fait. Moi, c'est mon opinion parce que.
Moi,
je pense
suis
que...
pour la liberté de chacun, en fait. C'est...
Mais en fait, moi aussi. Je pense que les gens qui veulent continuer à écouter R. Kelly. Ils peuvent continuer à écouter R. Kelly. Ça ne veut pas dire que c'est bien.
Et de toute façon, c'est pas moi qui vais aller chez les gens vérifier s'ils écoutent R. Kelly ou pas leur taper sur l'épaule et faire ouh là là, c'est pas bien.
Ce que je veux dire, c'est que tu veux arrêter d'écouter R. Kelly. Très bien. Moi, j'applaudis ce mouvement, mais il faut pas avoir la naïveté de croire. Je parle pas de toi. Hein, je parle des messages que je vois sur les réseaux sociaux. Faut pas avoir la naïveté de croire que c'est le fait de canceller R. Kelly d'un point de vue économique. En arrêtant de streamer ses morceaux, qui va faire quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est que les maisons de disques comme RCA Sony lâchent R. Kelly et arrêtent de produire ses albums.
Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une manifestation.
Et RCA vient d'annoncer qu'il ne produirait pas ses prochains albums. Je veux que les radios arrêtent de faire tourner les morceaux de R. Kelly. Je veux en fait que les institutions lâchent R. Kelly. C'est pas que Monsieur Tartempion veuille
mais
ou pas.
Mais les institutions
écouter.
Vont lâcher parce que Monsieur Tartempion veut plus écouter. Ben
alors
si.
aucun artiste n'a jamais vu sa fin de carrière grâce à un cancelling économique. Hein. Kevin Spacey, on verra ce qui se passe, mais pour l'instant Kevin Spacey est encore plus ou moins là.
Ouais, il est sur YouTube
carrière.
Quoi.
Ouais, Louis C.K. a une carrière, Woody Allen a une carrière, d'au moins un artiste qui a connu sa fin de carrière, qui a été totalement...
Harvey Weinstein.
Je peux pas répondre à cette question-là, François, mais la question du boycott en général, c'est justement la croyance que les individus,
voilà, et moi,
en,
je ne
en s'attaquant
je ne crois pas
aux porte-monnaie,
c'est quand même la base du boycott, quoi. Et c'est quand même.
Et le boycott, en fait, faut.
Il y a énormément de choses qui ont marché comme ça.
Non, en fait, non. Donne-moi une cause qui a vraiment.
Gandhi, tu connais ? Ça te dit quelque chose ?
Mais Gandhi, c'est pas pareil, c'est pas du boycott.
C'est quand même, il a dit aux Indiens, on arrête de bosser, quoi.
Le boycott, c'est pas ça. Le boycott des bus dans les États du Sud aux États-Unis, ça leur a fait du mal économiquement, et ça.
Ce que je veux dire par là, c'est que le boycott, ça a toujours été un moyen d'amener une visibilité à une cause politique, mais un moyen ciblé et temporaire d'amener une cause à une visibilité, excusez-moi, à une cause politique, mais pour ensuite que d'autres moyens d'action plus concrets.
Si les gens continuent à écouter R. Kelly, à streamer, et que le mec il fait des millions d'albums, sa maison de disques va dire bon ben.
Je suis d'accord, mais faut pas se mettre des. Faut pas se mettre des œillères. Si tu veux agir contre R. Kelly, limite, j'en ai rien à foutre que tu écoutes ou pas. Je préfère que tu donnes de l'argent au mouvement Mute R. Kelly. Je préfère que tu fasses une manifestation devant une salle où R. Kelly doit se produire. Enfin, il y a des moyens plus constructifs que le canceling.
Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Mais je pense que les gens qui font un devoir, qui font une nécessité impérieuse d'arrêter d'écouter R. Kelly, c'est comme les gens qui croient qu'ils vont sauver la planète en triant leur poubelle. Parce que eux, dans l'intimité de leur salon, ils trient leur poubelle. Alors, je suis d'accord que ouais, c'est bien, si on fait tout ça main dans la main, on va y réussir. Mais demandez d'abord aux usines, tu vois, qui déversent des déchets toxiques,
deux,
tu vois, des trucs qui ont des vrais impacts.
En fait, moi, je trouve que c'est
l'un n'empêche pas l'autre.
Voilà.
L'un n'empêche pas l'autre.
Tu peux pas dire, bah non, on fait rien tant que Total fait rien. Enfin,
l'un n'empêche pas l'autre.
Tant que RCA fait rien.
L'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense qu'en tant qu'individu, mais même en tant qu'individu, je pense qu'il y a des trucs plus productifs. Bon, bref, ça, c'est la question économique. Mais la question morale. La question morale de est-ce que juste c'est moral d'écouter R. Kelly ? Là, là aussi, je suis partagé, en fait. Parce que on parle souvent de l'art et de l'artiste, tu sais. Moi, je pense que. Enfin, de l'humain et de l'artiste. Moi, je pense que l'humain et l'artiste, il ne faut pas les séparer. C'est une seule et même personne. Et cette personne, elle devrait être en zonze. Elle devrait être en prison pour le restant de ses jours. Je ne veux plus jamais que R. Kelly fasse d'album. Je ne veux plus jamais que R. Kelly se produise. Je ne veux plus jamais que R. Kelly touche d'argent. Je ne veux plus jamais que R. Kelly vive, entre guillemets. Mais le problème, c'est que quand tu fais une œuvre d'art. Elle prend sa propre vie, elle se détache ensuite de.
Je suis pas du parti de dire que les gens qui sont condamnés par la justice n'ont pas le droit de faire de l'art. C'est pas. Les gens qui sont en prison, on leur demande de faire des activités.
Par contre, je suis d'accord avec ça. Je veux qu'on interdise à R. Kelly de faire des albums. Toi, je suis contre. Je suis pour. Y a pas de problème.
C'est un peu la même question que Bertrand Cantat, en fait. Ouais, Est-ce que le mec peut remonter sur scène et chanter des chansons de lover et de rebelle de la vie alors qu'il a tué quelqu'un, tu vois? C'est des vraies questions, en fait. Et je pense qu'on n'a pas de réponse, en fait, parce que c'est très compliqué. Mais je pense que moralement, une fois que tu as commis un crime comme ça, et ça vaut pour R. Kelly, hein, tu peux plus prétendre à être au statut d'artiste qui, en fait, est... Tu peux faire de l'art, je veux dire, il peut faire des chansons dans sa chambre s'il veut, mais il peut plus arriver sur une scène avec des millions de personnes et recevoir en fait cette espèce de gloire et de
prix
d'être célébré, c'est pas possible.
Le problème, c'est pas tant le fait de faire de l'art que la visibilité qui l'accompagne.
Pour moi, c'est ça, en fait.
Mais moi, en fait, j'en veux pas aux gens qui font une sorte de compartimentation entre les deux, en fait.
Moi, si je vais dans une soirée, quelqu'un met R. Kelly, je ferai la gueule.
Eh ben, moi, en fait, je pense qu'il y a un set, mais je vais en parler après. Mais je pense qu'il y a une liste de comportements dont celui-ci, tu vois, à avoir. Mais par exemple, tu sais que tu connais Every Breath You Take de The Police. Every breath you take.
C'est une chanson de stalker. Ouais.
C'est une chanson sur le stalking et sur la surveillance. C'est pas du tout une chanson d'amour. Depuis les années 80, Sting dit les mecs. Calmez-vous, c'est pas une chanson d'amour, c'est pas une chanson. Arrêtez de jouer cette chanson à vos mariages. Et pourtant, on continue à écouter Every Breath You Take. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le sens originel d'Every Breath You Take, tout le monde s'en fiche, la chanson, elle lui appartient plus depuis longtemps. De la même manière, quand j'écoute I Believe I Can Fly ou une autre chanson de R. Kelly, je ne la rattache pas au contexte, pas parce que je suis une mauvaise personne ou parce que je m'en fous de ce qui s'est passé, mais parce qu'en fait,
I Believe I Can Fly, en France, c'est celle qu'on connaît le plus. Et moi, je me retrouve notamment en ce moment parce qu'on a fait pas mal de boulot sur R. Kelly et avec toutes les news qui passent, à se chantonner cette putain de chanson. Quoi.
C'est la première chanson, je pense, qu'au collège, on m'a enseigné en anglais, tu vois. I believe I can fly. Tu vois, c'est vraiment, vraiment ça. Donc, bon.
Donc tu vois, le problème avec R. Kelly, c'est qu'il y a, vous le disiez tout à l'heure, c'est que la vie, enfin l'œuvre de l'artiste et sa vie, elles sont super liées, tu vois. C'est, pour moi, c'est ok d'écouter Kanye West en 2019 parce que les chansons de Kanye West sont pas des pamphlets pro-Trump. Par contre, R. Kelly, il parle de sexe.
Avec des enfants.
Voilà. Mais quand t'écoutes I Believe I Can Fly ou The World's Greatest, juste I Believe I Can Fly ou The World's Greatest. Donc qu'est-ce que t'en fais de ça, tu vois?
Ouais. C'est une question que je pense que chacun doit résoudre pour soi, mais si vous mettez ça à une soirée, je viendrai gueuler.
Ouais, en fait, c'est juste ce que je voulais dire, en fait. C'est que je pense que la question à l'échelle individuelle, bien sûr, de est-ce qu'il faut écouter R. Kelly ou pas en 2019, ça devrait être un choix de sensibilité. Si tu sens le souffle chaud de R. Kelly sur ta nuque et que ça t'a dégoûté de sa musique quand tu l'écoutes, l'écoute pas. Mais pour les autres, franchement, faites ce que vous voulez. Par contre, ne le mettez pas
en
soirée.
Ne lui donnez pas d'argent.
Ne lui donnez pas d'argent, en fait. Pour moi, t'as le droit d'écouter R. Kelly sur YouTube, c'est-à-dire illégalement, seul, dans
tout
ta
bas.
Cave, tout bas, avec des écouteurs.
Comment ça, illégalement sur YouTube?
Parce que les chansons de R. Kelly sur YouTube, c'est pas la maison de disques qui sont postées.
Oui,
donc tu donnes pas l'argent.
Faire gaffe, si c'est Vevo.
Non, justement, je dis si c'est pas Vevo. Donc si t'as le droit, si tu l'écoutes dans la pure illégalité, seul dans une cave, dans un bunker, tu vois, avec des écouteurs, avec personne autour, avec un petit frisson de honte, je pense que ça peut être ok d'écouter R. Kelly. I Believe I Can Fly.
Bon, du coup, on va terminer sur ce sujet. Je voulais juste poser une petite question. Révélez-nous qui n'arrivez-vous pas à canceler, Kevin?
Ah, c'est en deux parties. Il y en a un que j'ai semi-cancelé, que tu as déjà mentionné, c'est Louis C.K. François, tout à l'heure, tu disais que tu fais une espèce de dernière fois, tu consommes
l'œuvre de l'art.
Exactement. Je me suis fait une journée où j'ai tout regardé. Et puis pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas de changement, j'ai semi-cancelé Louis C.K. Je clique plus, je machin plus. Par contre, j'ai mis mon réveil demain matin à 10h. Parce que demain matin, il y a Aziz Ansari qui met ses places en vente à 10h du matin pour son premier Olympia.
Oui, c'est ça, il est à Paris. Hein.
Ouais, et je crois que je vais y aller. Donc voilà.
Tu nous raconteras.
Voilà.
Donc tu donnes de l'argent à Aziz Ansari. Mais après, ça dépend. Mais Aziz Ansari, moi, je ne le passe pas au même niveau que Louis C.K. Après, son stand-up, visiblement, a changé. Et maintenant, il fait « Ouais, le politiquement correct, vous nous faites chier. »
Je vous raconterai. En tout cas, c'était un mec qui se moquait de R. Kelly il y a déjà bien, bien, bien longtemps et qui était hilarant et qui parlait des problèmes de R. Kelly. Et c'était drôle.
François?
Si j'arrive pas à canceler.
La liste est longue, mais vas-y.
je te le dis, moi, je trouve que le canceling, c'est débile. Mais... Kanye West, on va dire, si vraiment je dois choisir quelqu'un, je vous l'ai déjà dit, moi je continue à écouter la musique.
Ce sera quoi la limite pour Kanye West?
Mais je te dis, il n'y a pas de limite. Je trouve qu'en fait, le grand singing, je trouve qu'on peut faire deux choses à la fois. On peut à la fois aimer l'œuvre d'un artiste et condamner de manière unilatérale ses propos politiques, tu vois.
Mais Kanye West, c'est des propos.
Ouais,
c'est des propos.
Pour l'instant.
R. Kelly, personne n'a de problème avec ses propos politiques.
Ouais, bien sûr.
C'est ça.
Mais encore une fois, je le redis parce que j'ai pas envie qu'après on me hâte sur Twitter. Je ne donne pas d'argent et ne donnez pas d'argent à R. Kelly. Écoutez R. Kelly si ça vous amuse, mais ne lui donnez pas d'argent.
Mélanie, toi, il y a quelqu'un qui...
Alors moi, ma réponse va vous déplaire, mais en fait, j'ai cherché. Hein, j'ai l'impression que je suis très sensible à ça. En cas de...
Je suis sûr, dans ta playlist, t'as plein de gens problématiques.
Je sais pas. J'ai rien à gronder. Et oui, on peut parler du fait qu'elle se mette qu'elle se fasse un peu de la blackface, quoi. Mais je sais pas. Non. Franchement, j'ai pas de scrupules pour canceler, moi. Ça me dérange pas, en fait, de me dire, voilà, c'est fini. Donc, les violeurs, les agresseurs sexuels, les pédophiles, les batteurs de femmes, tout ça, moi, j'ai aucun problème pour dire c'est fini, en fait. Et je sais pas.
T'as pas de Jimi Hendrix dans ta playlist?
Non.
T'as pas de John Lennon?
Non, moi, c'est pas tellement ça. Je pensais plus, tu vois, par exemple, les trucs coréens que t'aimes beaucoup. C'est pas un petit peu limite sur la place de la femme, sur la façon dont les actrices sont traitées
Et puis ils ont eu leur MeToo en Corée, effectivement, mais je sais pas.
Mais après, c'est loin de nous.
Je sais pas. C'est pas très black culture. Non, mais je sais pas. Franchement, pour l'instant, j'ai pas. Mais si un jour j'ai quelqu'un où j'arrive pas.
T'es pas sur Twitter, mais je vais te hâte quand même.
Tu vas la hâte vocalement.
WhatsApp.
Je vais suivre des comptes de gossip coréens. Juste pour trouver.
Mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de la portée rétroactive du canceling? Vous en pensez quoi?
Rétroactive, tu veux dire?
C'est-à-dire que si on parle du fait que le canceling doit être une posture morale, faut aussi reprendre justement les artistes du passé, par exemple.
Charlie Chaplin, ouais, qui s'est marié avec une fille de 15 ans.
Led Zeppelin.
Qu'est-ce qu'on fait? Après, est-ce que tu peux blâmer la culture? Je sais pas, mais là, je pense qu'on est dans un moment où la culture est en train de changer. Donc
on a un moment de changement, et puis.
Tu vois?
Ouais, c'est aussi en espérant que sur les artistes d'aujourd'hui, qui commencent aujourd'hui, ceux qui ont des petits problèmes de perversion se calment en disant j'ai envie d'avoir
une carrière.
avoir une carrière.
Moi, ouais. j'y crois plus. Ouais. Je crois beaucoup plus au crowdfunding pour un jeune artiste qui commence, tu vois, et qui a besoin, en gros, du soutien de son public pour percer. Et là, ça peut être vraiment utile de lui fermer les portes, en gros, de l'industrie et de la culture, qu'une sorte de révisionnisme moral, tu vois, a posteriori.
Moi, je pense que l'exemple vient du sport où il y a des primes d'éthique. Tout simplement.
C'est-à-dire que. Tu donnes de l'argent quand tu violes pas des gens.
Non, mais les footballeurs, si par exemple ils conduisent bourrés, s'ils sont pas corrects avec les journalistes, dans les grands clubs, on te tape le portefeuille. Moi, je suis une maison de disques, je dis oui, moi je prends n'importe quel chanteur de R&B, rappeur, rocker, etc. Par contre, dans les clauses du contrat, les gars, on déconne pas quoi. Parce que c'est aussi l'image, je sais pas si c'est faisable, je sais pas si c'est dans ce sens-là qu'on va, mais je crois que ça marche un peu.
Mmh. Ok. Bah pour terminer, j'ai envie de dire que le chip ne cautionne pas R. Kelly et ne l'a jamais fait.
Non. Ouais, je suis assez fan de géométrie en ce moment. Je suis obsédé par une certaine figure géométrique. Est-ce que vous savez laquelle?
Le carré?
Le pentagone?
Non, aucune de ces deux-là. Non plus le triangle, non, c'est l'octogone. L'octogone sans règles. Internet ne parle que de ça en ce moment, évidemment, le combat.
Les gamins ne parlent que de ça.
Les gamins, les adultes aussi. Attends, le combat entre Booba et Kaaris, depuis qu'ils se sont battus à Orly, ils veulent remettre ça en mode mixed martial arts, dans un ring de forme octogonal et sans arbitre. Donc depuis quelques semaines, ils s'envoient des pics sur Instagram par vidéo interposée, et du coup octogone sans règles est vite devenu la catchphrase du moment, ainsi que mon nouveau @ sur Twitter.
C'est vrai en plus.
Ça a déclenché une avalanche de mèmes. Si je dois vous parler très franchement, je pense que c'est vraiment au tout premier degré le beef le plus intéressant, le plus divertissant de l'histoire du rap français. Je sais pas.
Ah bah ouais.
Je vois pas
pour
qui.
Pour une fois qu'on a un truc chez nous et tout. Ah ouais. Là. Attends,
non mais ouais.
Pour moi, ça a éclipsé les gilets jaunes.
Ah ouais, mais largement. Ouais ouais ouais. Mais regarde en rap qui tu vois, genre BOSS contre Format People, tout le monde s'en foutait. Enfin, tu vois, je réfléchis comme ça. Bon, il y a Booba contre Cynic.
Contre
y a...
tout le monde. Booba contre
tout le monde. Mais en embrouille de rap français, je crois pas qu'on soit allé aussi loin dans le LOL et dans le côté très sérieux. Moi, j'ai bien aimé le montage qui mettait Booba et Kaaris dans le menu de sélection de Street Fighter 2. Je sais pas si vous l'avez vu, comme si Booba et Kaaris étaient des personnages de jeux de combat. Et en tant que gamer, j'ai eu envie un peu de les imaginer en personnages de Street Fighter 2.
Round 1, fight!
Imaginez, vous mettez la cartouche, vous appuyez sur Start, et là, vous arrivez à l'écran de sélection des personnages.
Oh.
Avec la musique iconique. Alors Booba, je le verrais bien, donc j'imaginais que Booba et Kaaris étaient chacun un personnage différent. Booba, je le verrais bien être Sagat. Vous voyez qui c'est Sagat? Le grand mec chauve.
Un peu aussi.
Non,
Sagat.
Ouais, plus Sagat, parce
plus
qu'en fait
musclé quand même.
Ouais, plus musclé, donc Sagat c'est le grand mec balèze chauve avec, vous savez, la cicatrice
sur le soviétique.
Ouais, c'est ça qui te fait.
Non, non, Sagat, c'est Zangief.
Ah oui,
là vous parlez de Zangief. Sagat c'est le grand mec en short.
Ah oui, il était trop bien.
Voilà, qui est thaïlandais.
C'est de la boxe.
Voilà, donc c'est un personnage de grande taille qui est racisé, il est pas noir, mais en tout cas il est pas blanc non plus, ça se voit là. À la couleur de son sprite, on voit que c'est pas un mec blanc. Donc voilà, il est de grande taille, il est racisé. Il est chauve, il y a une ressemblance physique en fait avec Booba, justement aussi dans le côté jambe de coq, n'est-ce pas?
C'est ça, oui.
Et puis c'est un grand mec, vous savez, qui a de l'allonge, donc moi je trouve que Booba, c'est en tant que combattant, il correspond un peu à ce personnage. Booba, il fait de la boxe thaï depuis longtemps, donc évidemment c'est un point important de ressemblance. On l'a vu dans plein de vidéos, dans plein de clips, dans plein de posts sur les réseaux sociaux, qui s'entraîne régulièrement. Je pense que c'est un hobby pour lui surtout, c'est une activité sportive comme une autre, mais c'est un truc qu'il pratique depuis facilement plus de 10 ans, quoi. Je me rappelle dans le clip de Garcimore, donc tu sais, pour la mixtape Autopsie, déjà le clip c'était juste lui qui se tapait sur un ring en mode sparring.
Ouais.
Donc Booba en Sagat, je trouve que ça marche bien. Et puis je trouve aussi que voilà, Sagat, il fait, je sais pas si vous vous souvenez, il fait beaucoup de coups anti-aériens, notamment il a un coup. Vous savez ce que c'est que les coups anti-aériens?
Bah, c'est quand l'adversaire saute.
Voilà, quand l'adversaire saute. Donc c'est des coups qui ressemblent à ce truc là. Vous connaissez tous. Donc c'est les points montants qui empêchent l'adversaire de s'approcher en sautant. Et Booba, je trouve qu'il est un peu dans l'anti-jeu comme ça. Booba, il aime pas qu'on l'approche. Dès qu'il se sent menacé par le talent d'un artiste proche de lui, il sort des coups comme
Tiger uppercut.
Et on s'est arrivé avec Kaaris, évidemment. C'est arrivé avec Damso
récemment, enfin en décembre.
Ouais, c'est arrivé avec Damso, c'est arrivé avec Kalash aussi finalement. Ouais. Tout le monde dit que Booba, il a ce caractère un peu ombrageux, que dès que quelqu'un...
Il peut pas laisser de la place à quelqu'un qui l'a fait monter.
Ouais, voilà, il est fan de compétition, il adore la compétition, il le dit souvent qu'il adore la compétition dans le rap, et en même temps, j'ai l'impression que dès que quelqu'un est susceptible de lui faire de l'ombre, ou alors un défaut de loyauté, il punit, en effet. Ensuite, pour Caris, moi, je verrais bien incarner Balrog, le boxeur. Vous voyez qui c'est, personnage de petite taille, trapu mais puissant, un peu comme Caris lui-même. On a vu des vidéos de Caris qui s'entraînait notamment contre un sac de sable. Caris, c'est pas un mec qui a l'air de beaucoup utiliser ses jambes en combat. Enfin, vous avez déjà vu des Caris en train de faire des kicks ou des trucs comme ça.
Pas Orly en tout cas.
pas Orly. Je sais pas, il a pas l'air de beaucoup pratiquer les coups de pied, donc je pense que la boxe anglaise, ça lui irait bien comme style de combat. Et puis Balrog, c'est un peu l'un des hommes de main de Mister Bison, vous savez le boss final.
Ouais.
Balrog, il a plusieurs hommes de main dont Balrog. Or sur le premier album de Caris, Or Noir, il y a un morceau qui s'appelle Bison. Coincidence? Ne pense pas. Bon, ok. Là, je suis un peu dans le conspirationnisme. Mais bon, plus sérieusement, vous pensez, qui pensez-vous que va sortir vainqueur de ce combat? Si vous deviez faire un guess.
Alors, moi, mes élèves sont tous pour Caris.
D'accord, pourquoi?
Je trouvais ça assez étrange.
Mais attends, il est où ton bahut?
Il est dans le 14e.
D'accord,
ils sont tous noirs et arabes. Hein,
non, d'accord, je pensais que s'il était en 93, ça aurait pu expliquer, tu vois, 9-3, ce vent,
ouais,
2-7-0.
Ouais. Non, il est à Paris et je sais pas, non, ils disent tous, il chante mieux, ses chansons elles sont mieux, il est plus marrant, il est plus intéressant.
Mais il faut séparer l'art de l'artiste, en fait. C'est pas parce que la musique. C'est pas parce que la musique de Caris est meilleure pour eux que c'est un meilleur combattant et qu'il va être vainqueur sur le ring.
Écoute, on verra. T'en avec le quoi, soutien de la génération.
moi, je pense que
Booba
a plus d'allonge et plus entraîné.
Ouais.
Mais en même temps, Caris, il va arriver avec plus la faim, à mon avis. Ouais.
C'est le challenger.
C'est le challenger. Et puis en plus, c'est un peu Booba qui cherche, en vrai.
Oui.
C'est complètement Booba qui cherche Caris, donc ce serait marrant que Caris lui fasse fermer sa bouche et Booba devrait se réinventer artistiquement.
Ouais, non mais c'est super intéressant. Moi aussi je pense que c'est Booba qui va gagner parce qu'il est plus grand, il a plus d'allonge, c'est important dans un combat. Il a beaucoup plus de pratique, je pense, de sport de combat. On l'a vu, il est ami avec plein de combattants.
Je pense que c'est Caris qui va gagner.
Non, je pense que c'est Booba, j'aimerais bien que ce soit Caris.
Ah d'accord.
T'aimerais bien que ce soit Caris.
Ouais.
Moi je prends pas parti, j'ai l'impression d'être un enfant pris entre le divorce de ses parents. Je peux pas choisir de quand vraiment j'aime les.
Faut voir François chanter en soirée Kalash et Chargé de Caris.
Ouais, je suis un enfant de la trappe, moi je peux pas choisir. Mais ouais, il a plus d'allonge, plus d'entraînement, plus de pratique. Et puis tu sais, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, il est ami avec plein de combattants de free fight. Il a un personal trainer.
Il est coaché.
Ouais, il est coaché. Il a un personal trainer qui l'entraîne, etc. Il est très ami avec Audrey Tchemeo, vous savez. Audrey Tchemeo, c'est une médaillée olympique de judo. Donc c'est pas du MMA bien sûr, mais le MMA c'est un mélange de tous les arts martiaux, donc elle peut très bien l'entraîner pour des petites prises au sol, tu vois. Ils s'entraînent souvent avec Benzema c'est pas un fighter, mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont le même entraînement physique, tu vois, donc ils s'entraînent avec des sportifs de haut niveau. Le mec il est en condition, quoi. Il le prend au sérieux, en plus ce combat on le voit, ça fait des mois qu'il s'entraîne, alors que Caris il a dit il y a deux semaines je vais commencer à m'entraîner, tu vas voir ce que je vais faire, tu vois. Donc je pense
il va même encore plus loin, il dit je vais même pas m'entraîner, je vais fumer tous les jours jusqu'au combat.
Ouais, il a dit ça. Non, il a dit ça au début et après il a dit ouais, je vais m'entraîner maintenant. Ok, maintenant je vais m'entraîner. Donc voilà, c'est vrai que Booba il a moins faim, mais en même temps je pense qu'il prend le combat plus au sérieux.
Okay.
Voilà. Donc je sais pas qui va sortir vainqueur de ce combat. Je pense que ce sera en tout cas sûrement pas le respect.
Le respect est mort.
You lose.
Alors moi j'ai deux recommandations et mes deux recommandations ça va être des propositions en fait pour sortir de ces problèmes de masculinité noire agressive. Donc je recommande deux trucs, évidemment du stand-up. Le premier c'est en anglais, ça s'appelle Ron Funches. C'est un mec qui vient de sortir son nouvel album, il s'appelle Giggle Fit. Et Ron, comme il le dit souvent, c'est pas une tough person, c'est pas un bad boy. Pourtant il vient du sud de Chicago, donc des quartiers un peu difficiles, mais lui il est pas du tout comme ça. C'est en gros bisounours. plus si gros que ça, parce que depuis 2 ans, il a perdu environ 60 kilos. Mais ce sur quoi il travaille, son matériel, c'est, il le dit lui-même, c'est pas très politique. Il a pas envie de parler des choses qu'il déteste, c'est pas agressif ou quoi que ce soit. Il explique qu'il a pas de temps pour les racistes, il a pas de temps pour les homophobes, et il a pas non plus de temps pour les gens qui croient pas aux théories du complot.
And again, as I said before, I don't like talking about politics on stage or off stage. I don't like talking about things I don't feel like I'm truly knowledgeable in. But I do know this. Our government is placed in charge of all of its people. I'm a father who's been placed in charge of just one son. And I lie to that nigga all the time.
Ron, en fait, éduque son fils seul. Il a un fils adolescent qui a 15 ans, qui est autiste, et c'est une sacrée épreuve, il en parle beaucoup. Il a aussi toute une routine autour de Dwayne Johnson, alias The Rock, dont il est semi-amoureux. Il explique que The Rock est fantastique, que The Rock est magnifique, il a jamais fait d'erreur, que c'est un peu le Beyoncé pour les garçons. C'est drôle, ça va très loin tout en restant mignon, c'est très cool. Donc Giggle Fit, son special, est disponible sur Spotify, on vous mettra le lien. Et puis la deuxième chose que je veux vous recommander, c'est en français, ça s'appelle Humoriste du Monde. Le 1er janvier, Netflix a sorti une série de stand-up, donc Humoriste du Monde, avec des artistes du monde entier, donc Brésil, Mexique, Inde, Royaume-Uni, Canada, Afrique du Sud, Moyen-Orient et France. Donc il y a 4 artistes français, j'en ai vu 3 pour l'instant. Il y a Jason Brookers, que j'aime beaucoup, qui écrit pour Farid, qui est très drôle. Il y a le fameux Donnell Jacksman, dont on a parlé il y a quelques semaines, parce qu'il s'était fait insulter à Nice sur scène, oui. Il s'était fait traiter de sale noire. Mm-hmm. Il y avait un émoi national, Christian Estrosi, le motodidacte maire de Nice, lui avait présenté ses excuses en lui disant que Nice l'aime. Et en fait, la personne qui m'a vraiment, vraiment tapé dans l'œil, c'est une femme qui s'appelle Shirley Soignon. Je sais pas si on avait déjà parlé. C'est une femme noire, homosexuelle, et elle commence directement en se moquant des humoristes français qui piquent des blagues aux humoristes américains. Thomas Sisley, Malik Bentala, Gad Elmaleh, etc. Puis ensuite, elle parle de son homosexualité, de la difficulté pour elle de voyager en tant que femme noire homosexuelle. Elle dit « Je voyage comme si j'étais un homme blanc hétérosexuel. Je regarde pas les lois du pays dans lequel je vais. Je me crois libre. Lol. » Et pour le coup, c'est assez politique. C'est rare de voir une femme noire aller aussi loin. Trop loin. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, t'en as pensé quoi ?
Je la trouve pas drôle. Bon. Je la trouve plus intelligente que drôle.
Moi, je la trouve hilarante.
Mais elle est vraiment très incisive. Très, très incisive. Très intéressante à écouter.
Et puis, la quatrième personne, j'ai pas encore vu, j'ai oublié son nom. C'est une autre française, une femme blanche, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder. Bref, allez voir tout ça.
Le mec aussi, pas le temps pour les femmes blanches.
C'est ce que j'allais dire. La femme blanche n'a pas de nom, quoi.
On vous mettra son nom en description. Donc voilà. Donc, allez voir ça. Giggle Fit et Humoriste du Monde pour vous détendre et arrêter avec la violence.
Moi, ma recommandation, c'est le film Into the Spider-Verse, qui a été magistralement traduit en VF par Spider-Man New Generation. J'adore quand ils traduisent un titre anglais par un titre anglais, ça me fait beaucoup rire à chaque fois.
Fairy Bad Trip ?
Oui, voilà, ce genre de truc. Perso, j'étais saoulée un peu de Spider-Man, du personnage, parce qu'on a eu environ 58 films depuis 2002, le film de Sam Raimi... plus le reboot de Sony foiré en 2012, plus le reboot réussi de Marvel en 2017, ça fait beaucoup. Mais du coup, Spider-Verse, c'est un film d'animation qui est sorti à Noël et ça m'a presque fait changer d'avis sur le personnage. Remember what makes you different? Let's go! Is what makes you Spider-Man. Officer, I love you. Wait, what? Donc le film raconte l'histoire de Miles Morales, un jeune lycéen afro-latino de Brooklyn, issu d'un quartier noir et scolarisé dans un lycée privé blanc. Suite à une faille spatio-temporelle, une morsure d'araignée radioactive, on connaît, hein, il va devenir Black Spider-Man. Et moi je trouve que le film c'est vraiment une réussite inattendue parce que l'animation, l'utilisation de l'animation ramène une vraie fraîcheur à l'histoire et il y a une vraie recherche graphique. Moi j'étais quand même assez épatée de l'usage de la 3D parce que le film est en 2D mais il y a des effets 3D un petit peu. C'est très très beau. Hein.
Ouais, bluffant.
Et il y a une vraie dimension artistique en fait dans le film d'animation. Et j'étais assez prise par surprise. Je trouve qu'il y a un vrai hommage à la culture du graphe. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Avec l'explosion de couleurs, les personnages. Enfin, il y a vraiment un truc. Parce que du coup, Miles Morales fait du graphe lui aussi. Ce personnage, il a été introduit dans les comics en 2011. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça montre, il montre une autre version du New York Kid from Brooklyn, quoi. Parce qu'on avait eu toujours cette discussion sur les réseaux sociaux. Est-ce que Spider-Man pourrait être, ne pas être blanc. Et c'était non, mais il vient de Brooklyn et il vient de New York, donc c'est normal qu'il soit blanc.
Brooklyn, quartier, bien sûr. Oui, on voilà. Ne vient pas le, du tout Jay-Z, par exemple.
Le Peter Parker, il vient pas du Queens
Peter Parker vient du Queens. Et effectivement, on disait que c'était du coup impossible que...
De le mettre dans un autre,
voilà, dans un autre univers.
Impossible.
Et du coup, à la sortie du comics qui mettait en scène Miles Morales il y a 7 ans, le personnage avait créé une polémique chez les fachos, comme d'habitude.
Fachos.
Qui voyaient encore un ravage du politiquement correct. Et on se rappelle aussi de la campagne de Donald Glover pour incarner Miles à l'écran.
Bien sûr.
Voilà, maintenant il est trop vieux, c'est dommage, mais on s'en souvient.
Blague donc craque, hein. Demain il y a le rôle, je vais pas me révolter et mettre à feu et à sang mon UGC. Hein.
Des gens le feront pour toi. Hein.
Moi ce que j'aime dans le film, c'est qu'il est vraiment aussi inventif sur la forme que sur le fond, parce que le scénario, du coup, dont je vais un peu parler, avec les failles spatio-temporelles, on découvre des Spider-Man tordus, issus de mondes parallèles, dont un Peter Parker ventru, qui est un peu le loser, quoi, qui est un peu blasé de la vie, et qui prend Miles sous son aile. Il y a aussi le préféré de ma petite sœur, qui est Spider-Ham, le Spider-cochon, qui est un peu une variation du rêve d'Homer Simpson. Et le scénario du film est vraiment, je sais pas, déjanté, réjouissant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que maintenant, on a vu tellement de films de super qu'on commence vraiment à être fatigué. Là, j'ai été surprise, quoi. Ça en fait... effectivement, il y a une origin story, donc ça, on en mange à toutes les sauces, mais il y a une version sous-en-fait des films de super-héros qu'on a l'habitude de voir avec les dimensions... Ouais.
C'est souvent ce qu'il y a de plus excitant aussi dans les grandes histoires de super-héros, c'est les origin stories. C'est dur de pas reprendre,
mais Spider-Man, il en a eu quand même 5 ou 6.
Il en a une tous les deux ans, quoi. C'est, ouais.
Donc voilà. Alors après, le film a récolté les lauriers de la profession, dont ceux du parrain du chip Barry Jenkins, hein, qui l'a appelé Magnificent et l'un des meilleurs films de 2018. Donc je conseille à tout le monde d'écouter Tonton et d'aller voir le Black Spider-Man en famille avant qu'il remporte un Oscar le mois prochain.
C'est bien qu'il n'ait pas été traduit en français par Spider Black. franchement, ils auraient pu. Hein.
Ils se sont retenus, c'est ça que tu veux dire. Ouais. C'était le Chip. On revient dans 15 jours. En attendant, comme d'habitude, Instagram, Twitter...
@lechippodcast.
Merci Kevin. Vous pouvez aussi nous laisser
5 étoiles
sur Apple Podcast.
Apple Podcast, je l'ai pas eu.
Pour nous faire remonter dans le classement, on a oublié un truc.
Bonne année et fuck R. Kelly.
Oui, voilà. On remercie beaucoup Quentin Bresson pour la réalisation de l'émission.
Bonne année, Quentin. On est dans les nouveaux studios de Binge, franchement.
Ouais,
franchement,
c'est trop beau. Ouais. Ça sent le neuf, il y a de la peinture et tout. Trop bien. Voilà. C'est tout ce qu'on dit.
C'est tout ce qu'on dit. Hein.
C'est tout ce qu'on
Allez,
dit.
Revenez dans 15 jours. Bisous, les copains.
Bisous.